Il y a une chose sur la paracha Tazria, quand j'ai commencé à l'étudier, je me suis dit où je vais. Et en même temps, je voulais développer au départ la notion du lépreux guéri avec Metzora, la Tzarat, et toutes ces choses qui sont tellement importantes et qui nous parlent tellement du Mashiach, du Messie, que je voulais vraiment aller là. Et puis, à un moment donné, quand j'ai commencé à m'orienter vers ce qui amène à la compréhension du lépreux guéri, eh bien, j'ai ouvert ma compréhension dans une autre dimension. Alors, lorsqu'on prend les bases des chapitres, qui sont le chapitre 12 et 13 de Vaïkra, donc du livre de Lévitique, ce sont des chapitres qui traitent de loi. Alors, je sais qu'il y a un certain univers qui n'aime pas, dès qu'on emploie ce mot, dès qu'on emploie le mot loi, Paul l'a rejeté. On va voir tout à l'heure. Mais ce sont des lois qui ont un sens. Ce ne sont pas simplement des commandements. Ce sont des lois. Et des lois relatives, dans ce cadre-là, à l'impureté et à la pureté, que nous appelons Touma Tahara. Donc, il faut savoir qu'il y a des choses qui régissent les actions de l'impureté comme de la pureté, et qui deviennent spirituels, qui ne sont pas simplement des données physiques, humaines, par rapport à des situations humaines et purement physiques, mais qui vont beaucoup plus loin. Et comme Paul le dit d'ailleurs, à un moment donné, il le dit clairement, que la loi, elle est d'abord spirituelle. Elle n'est pas simplement un énoncé de choses, mais elle est spirituelle. Et il faut comprendre que derrière chaque commandement, il y a un sens. Et que derrière, il y a une loi qui régit dans le bien ou le mal, dans la rédemption ou dans la mort. Et que si nous n'avons pas la compréhension de cela, eh bien, à un moment donné, on va presque nager. Alors, il y a dans ces deux chapitres, essentiellement, quelque chose qui nous amène dans les grandes lignes qui sont définies, l'impureté, que Christian a un petit peu développé avec la notion d'accouchement. Il y a l'autre niveau qui est le mikvé, donc le bain rituel et les offrandes, la brit mila, qui doit se faire le huitième jour. Et seulement après, il est parlé de tsaharat, donc de la lèpre, qui n'est pas la lèpre, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis ensuite de la guérison, la purification de la lèpre. Et ce qui est très important, c'est de bien faire la différence. Ce n'est pas le terme guérison qui est employé lorsque nous parlons de la lèpre, mais le terme purification. Quand on guérit de la lèpre, ce n'est pas une guérison dans le sens habituel du terme physique, c'est une purification qui guérit et qui marque la guérison. Et que ceci est régi par tout un tas d'éléments. Donc, je ne pourrais pas toucher un ensemble de ces lignes. Le temps manquerait, ou alors on joue les prolongations. À votre choix. Ma femme est en Suisse, alors j'ai le temps. Alors, c'est vrai que c'est un sujet quand même qui n'est pas à la portée de tous, parce qu'il est quand même assez difficile, complexe. Et derrière, il faut vraiment comprendre ce qui se cache profondément derrière ces énoncés de loi, ces recommandations, ces applications que le peuple d'Israël applique encore aujourd'hui. C'est pas simplement du temps de Moïse, c'est pas simplement passé, c'est appliqué. Peut-être pas exactement de la même façon, et d'autant plus qu'à l'époque ils étaient dans le désert, mais il faut comprendre que ce sont des choses qui sont encore applicables dans le peuple juif. Le bain rituel, le mikvé, fait partie intégrante de la vie juive. Et qu'il y a un ensemble de choses, et on croit très souvent que ça date de Moïse, que c'est fini. Non! Ça suit l'histoire. Alors, pour comprendre toutes ces dimensions, il faut bien se caler sur un principe. C'est que nous ne devons pas avoir un niveau de compréhension intellectuelle. Parce que même les rabbins le disent, sur le plan intellectuel, on ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne comprend pas la signification, la place de ces choses. Elles n'ont pas de sens dans une vie familiale physique. Elles n'ont pas de réelle cohérence. Mais il faut les comprendre, comme je vous l'ai dit, dans un sens profondément et purement spirituel. Alors, lorsque Paul, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, dit que la loi, il dit que la loi, elle est bonne et qu'elle est spirituelle. Il n'a jamais dit que la loi était mauvaise et était à rejeter. Mais on y reviendra un de ces quatre. La loi, c'est la Torah, c'est les cinq livres, mais c'est aussi les commandements. C'est aussi un ensemble de recommandations qui est faite. Et la Torah, elle est ce qui nous ouvre la dimension du Messie, de l'œuvre du Mashiach. Vous enlevez le Mishkan, vous enlevez le souverain sacrificateur, vous enlevez la signification des habits, vous enlevez l'ensemble des choses, et le Messie est un Messie incompréhensible, inaccessible. Et c'est pourquoi le fait de rentrer dans des choses qui peuvent paraître un petit peu difficiles, eh bien, nous oriente. Alors, tout a un sens et une compréhension, parce que tout est en relation dans cette paracha, et ce qui relie cette paracha est l'élément les plus importants dans l'existence de l'être humain. C'est ce qui le lie à la mort et ce qui le lie à la vie. C'est-à-dire que dans la pensée d'Israël, dans la pensée rabbinique, on va dire ce qui nous lie à la mort a une cause. La mort ne frappe pas sans raison. La mort va frapper de plusieurs manières et elle peut frapper également par la maladie. La maladie peut conduire à la mort. Et c'est ce que nous appelons l'état d'impureté, parce qu'elle n'était pas à la base. Parce que lorsque Dieu a créé parfait. Il a créé tort, bon. Et que ce mal a frappé après ce que on appelle communément la chute. Donc, il faut bien comprendre que la mort est quelque chose qui est entré et qui va se manifester et qu'elle a véritablement un lien avec un ensemble de choses. La mort ne frappe pas par hasard. Elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord liée à la désobéissance d'Adam. Elle est d'abord liée et avec les conséquences que cela donne. La vie a une loi. Il y a une loi de la vie. Il y a une loi de la vie. Et la loi de la vie, c'est d'être délié de la mort. C'est de ne pas avoir l'emprise de la mort en soi. Et la vie, c'est quelque chose qui n'est pas simplement un temps déterminé de vie pendant 50 ans, 80, 100 ans, 150 ans. C'est une durée de vie, ça. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit qu'il est la vie, qu'il est le chemin, la vérité, la vie? Il dit beaucoup plus que simplement un prolongement de vie par une guérison physique. Et nous allons voir que l'essence nous rattache par rapport à la paracha dans la compréhension de ce qu'est l'impureté par rapport à la pureté. Alors dans la pensée d'Israël, cela signifie que la source de toute pureté, elle est liée et elle est la vie. La pureté égale vie. Et la mort, comme étant l'origine de la touma, de la faute, du mal qui frappe l'être humain. Et c'est-à-dire que le mal, quand il nous frappe, eh bien, il ne peut pas nous conduire à la vie, mais à la mort. Et tout simplement, si nous voulons avoir un éclairage, parce que très souvent, ce que j'ai pu constater en tant que juif, c'est l'incompréhension de Paul en tant que juif, dans le monde évangélique, chrétien, théologique, que j'ai pu côtoyer, fréquenter, avec lequel il y a eu quand même des affrontements, des fois des trucs que je n'ai pas pu répondre, parce qu'il manquait un peu de recul et de compréhension, c'est qu'on utilise des fois des versets sans comprendre ce qu'ils disent, ce qu'ils signifient, à quoi ils sont reliés. Et donc, j'ai voulu pousser un peu plus, alors on va lire dans Romains, dans les chapitres 3, on va lire deux passages. Pour introduire, 3, 23, c'est normalement des passages que tout le monde connaît bien. Car tous, que tu sois protestant, méthodiste, luthérien, que tu sois un juif rabbinique, que tu sois, tous ont la Touma. tous sont chet. Tous ont manqué, raté le but. Il n'y en a pas un qui a accompli le but, sinon le Messie. Car tous ont péché, sont privés de la présence de Dieu. C'est-à-dire, dans la pensée d'Israël, dans la pensée juive, une présence qui est éloignée, qui est retirée et qui est inaccessible. Donc ça, c'est l'une des choses que nous devons comprendre, que la présence de Dieu est retirée parce que tous ont péché. Et que la présence de Dieu ne va pas venir de manière automatique, rien que parce qu'on est beau, parce qu'on est gentil, parce qu'on a changé de siècle. Mais parce qu'il y a une raison. Et nous pouvons la lire d'ailleurs. Et ils sont gratuitement justifiés, c'est très mal traduit, par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Rédemption est le vrai mot. Qui est en Yeshua Mashiach. Et c'est lui que Dieu a destiné, etc., etc. Et il parle de la fête de Yom Kippour, là. Et il faut bien être relié et en relation avec la compréhension de Paul. On ne peut pas simplement sortir des versets comme ça, tous azimuts, sans qu'ils soient reliés à un historique. Le deuxième passage, on va le lire, c'est dans Romains, le chapitre 6. Alors je vais dans le sens du sirtaki aujourd'hui. Le sirtaki est une danse qui commence doucement, calmement, et après l'accélération, bababa, on n'arrête plus. Alors, écoutez bien. 6, pardon, à partir, on va dire à partir du verset 21. Quels fruits portiez-vous alors, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui? Car la fin de ces choses, c'est la mort. Paul est clair. Mais sur quoi il se base pour dire ça? Mais maintenant, étant affranchi de la Touma et devenu serviteur de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais en Yeshua, à Mashiach, notre Adon. Donc ceci nous amène à comprendre ce que l'on peut lire également dans le psaume 51. Le psaume 51 que tu as récité tout à l'heure. Par cœur en hébreu. Et il dit ceci, car je reconnais, verset 5, pardon. Car je reconnais, ah non, c'est clair qu'en hébreu par rapport au français, il y a des décalages. On va lire à partir du verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché, ma touma, mon mal, ma mort est devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Et là, il fait allusion, David, à la paracha que nous venons de lire. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans la mort. Dans ce qui a été dit tout à l'heure, voilà le sens. Mais tu veux que Emmet soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse, la rhorma, au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes fautes, de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et là, il dit, ne me rejette pas loin de ta joie, HaKodesh, de ce qui me relie à toi. Donc ça, c'est un premier sens. Donc Yohanan nous donne encore plus de compréhension quand on va dans 1 Jean Oui, vous avez des Bibles, hein. 1 Jean 3. Et on va lire à partir du verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique, c'est pas simplement d'être né dans le péché maintenant. Quiconque a une pratique de la mort et du mal dans sa vie, tout ce qui conduit à la mort, c'est-à-dire tout ce qui conduit à la mort, qu'on trouve facilement dans les Épîtres aux Galates et Apocalypse, quiconque pratique le péché transgresse la loi. Ah! Et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Yeshua a paru porter les péchés et il n'y a point en lui de mort. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché, la mort, le mal. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Et là, c'est clair. Mais on va aller encore plus loin. 1 Jean 5. Je pose les bases. 1 Jean 5. Je suis dans le Sirtaki. On est au début. 5:17. On va lire à partir du verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort. Ah! Qu'il prie. Là, tu peux prier. Mais un péché qui mène à la mort, est-ce que ta prière va être entendue? Non, c'est des choses qu'il faut se poser en question. Qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. On pourrait aller encore plus loin, mais on va se raisonner. Nous savons, au travers de ce que nous venons de lire, que tout un lien, que rien ne peut être inventé simplement sur la base d'une idéologie qu'aurait inventé Paul, ou qu'aurait inventé Yohanan, ou qu'aurait inventé un homme. Il faut qu'il y ait sa racine, sa base pour la compréhension, afin d'avoir un accomplissement. Autrement, il n'y a rien. Et il nous faut comprendre que lorsque nous voulons entrer dans les terminologies hébraïques et davantage orienter la compréhension, il y a trois termes, clairs, nets, précis, même s'il y en a un peu plus, mais trois essentiels, principaux, qui définissent par excellence la dimension du terme péché qui est générique chez les chrétiens et les croyants. D'une manière générale, quand on parle de péché, on parle de tout. Et finalement, il n'y a pas de définition claire, précise. Un coup, c'est parce qu'on est séparé de Dieu, un coup, c'est parce qu'on fait ça, c'est parce qu'on a fait du mal. Et il faut savoir qu'en hébreu, il y a trois termes que je ne vais pas développer parce que le temps ne le permet pas, mais que je pourrais développer un de ces quatre, c'est « chet avon pécha ». Et chacun de ces termes évoque ce que renferme vraiment la notion de péché. Et donc, il nous faut bien comprendre que « chet », c'est ce qui rate le but, « avon », c'est lié à autre chose, et « pécha » également. Je ne veux pas aller plus loin parce qu'autrement, je vais commencer à déborder. Donc en d'autres termes, il y a ce qui donne la vie et ce qui produit la mort. Et ceci est également vrai sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Donc il est à saisir qu'il y a plusieurs sortes d'impuretés parce que c'est de cela qu'il est question. Et elles touchent non seulement la vie personnelle, elles touchent le service de Dieu. C'est ce qui se manifestera par la tsarat, la lèpre, ce mal qui sortira de soi mais qui s'étendra sur l'environnement. Il touchera ma vie, moi je mourrai, mais il touchera la vie de famille. et elle se répandra, et la mort se répandra autour de moi, dans la famille. Ensuite, elle se répandra sur le peuple, et elle peut se répandre sur le Kohen Agadol, sur le chef spirituel de la communauté. Donc, nous devons bien comprendre que nous trouvons tout cela dans la Torah, et nous savons qu'à un moment donné, Myriam, la sœur de Moshe, a été frappée de cette lèpre et qu'elle a été mise hors du camp, et que ce n'est pas une lèpre qui est venue simplement parce qu'elle avait fait quelque chose de mal sur un plan humain. Et la lèpre, ce que beaucoup n'ont pas retenu comme étant essentiel, mais que la Torah, que le peuple d'Israël, dans sa pratique, considère comme le plus haut niveau, ce qui amène l'impureté, c'est le lashon hara, c'est la médisance. La mort, elle est en toi, mais elle rentre chez l'autre. Et elle produit la mort. Et il faut qu'il y ait ce qui produit la vie. Alors il est clair que je trouve inadmissible, et il est vrai qu'au niveau de la pratique, non, je dis que tout n'est pas tolérable, et qu'une manière de parler n'est pas tolérable, une manière de prier n'est pas tolérable. Lorsqu'elle prie pour chasser qui a appris à prier, est-ce que c'est l'enseignement de la prière de Yeshua, lorsque quelqu'un se met à prier en disant qu'il soit chassé de la communauté, qu'il doit quitter la communauté, qu'il soit retiré de la communauté. Qui a appris à prier comme ça? Trouvez-moi-le dans la Bible. Trouvez-le. Dites-moi où c'est écrit. Yeshua Mashiach nous apprend Avinu. Avinu Shibashamayim. Et il ne nous apprend pas à prier dans le sens du mépris, de la haine qui produit la mort. Donc il est clair que dans la halakha nazaréenne, dans la halakha hébreu messianique dans laquelle nous sommes, ce type de prière, ce lachonara, il est à exclure totalement, parce qu'il produit l'impureté. Et donc l'impureté produit la mort. Et elle amène les dysfonctionnements, et elle retient un ensemble de choses. Donc je suis au courant d'une situation sur laquelle j'interviendrai, mais ce n'était pas pour cela que je disais cela, ça rentrait dans le cadre, que la mort et l'impureté va rentrer par plusieurs niveaux. Et que c'est très important de savoir que ça se répand et que ça touche même les générations futures. Et comme il a été dit, eh bien on voit que Yeshua Mashiach, il a purifié des lépreux. Et que sur 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu. Et que Yeshua lui dit, qu'est-ce que tu veux? Je le veux, sois pur. Et l'autre revient, reconnaît la dimension extraordinaire du Messie. Alors, ce que nous devons comprendre, c'est que dans la Torah, nous trouvons tous les processus de purification pour chaque situation. Il n'en demeure pas moins que l'aboutissement était l'immersion dans le mikvé. Combien de gens ont vraiment compris le sens du baptême? Moi, je l'appelle Tevila. Un baptême, ce n'est pas le baptême que le catholicisme a inventé par les trois gouttes et qui ensuite est devenu, dans l'autre niveau, une formulation. Et on va le voir, si le temps le permet. Le temps ne le permettrait pas. Mais l'aboutissement, c'est le mikvé, c'est la tevila, ce qu'on est en train de faire là, un mikvé de conformité, qui donne le sens et la compréhension de ces paroles de Yeshua Mashiach sur la Tevila. Alors, on va commencer à rentrer maintenant un peu plus, on va attaquer un peu plus vite. Luc 7. Je sais que des fois, Tal, elle va me dire qu'elle va trop vite, mais ça ne fait rien. Il faut suivre. C'est les marathons. Pas des paris, c'est les marathons messianiques. Luc 7. Et on va lire à partir du verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Yohanan. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant, ont justifié Dieu. Et là, je mets au défi beaucoup, beaucoup de croyants, de m'expliquer ce que ça veut dire justifier Dieu. En se faisant baptiser du baptême de Yohanan. Est-ce que ce baptême est pratiqué aujourd'hui? Le baptême de Yohanan. Pourquoi il n'est pas? Déraciné. Mais les pharisiens et les docteurs de la Torah, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Là, on est dans la puissance des paroles, dans le poids des mots. Mais on va pousser la compréhension, Luc 20. Et le verset... À partir du verset 2, parce que c'était un peu conflictuel. Et ils lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Et il leur répondit, « Je vous adresserai aussi une question. Dites-moi, le baptême de Yohanan venait-il du ciel ou des hommes ?» C'est intéressant. Mais ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira, « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Yohanan était un grand prophète. Romains 6. On va rentrer après dans la profondeur des compréhensions. Romains 6, à partir du verset 3. « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été immergés, plongés en Yeshua Mashiach, c'est en sa mort. » Vous reliez un petit peu ce que je disais avant. Hein. « C'est en sa mort que nous avons été immergés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par la Tevila en sa mort, afin que comme le Messie est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et vous pouvez, après à la maison, lire les restes. Éphésiens 5, à partir du verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Machiar a aimé l'Ecclésia et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifiant, de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette ecclésia glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. On le traduit du grec. Il veut dire, non seulement sanctifier l'ecclésia, c'est-à-dire tous les non-juifs qui n'avaient pas part à l'héritage d'Israël, l'héritage même spirituel d'Israël. Et il faut bien comprendre que pour que cela ait pu se produire, eh bien, il y avait toute une démarche. Et que lorsqu'il parle de l'Ecclésia, il parle bien d'un ensemble de gens, de personnes, qui sont issus du dehors, c'est le sens de l'Ecclésia, de ceux qui sont du dehors et qui sont rentrés dans l'alliance d'Israël, et qui vont adopter la racine du Mashiach, qui vont se greffer sur l'olivier franc, et qui vont se nourrir de sa vie, de sa sève, et non de la sève du paganisme, non de la sève d'invention purement humaine, mais qui vont se greffer sur la racine sainte. Les racines d'Israël sont saintes. Et nous l'avons très bien lu. Donc, il la sanctifie, cette ecclésia, en la purifiant. Comment l'ecclésia peut-elle être purifiée ? En la lavant par l'eau de la parole. Vous croyez du verbal? C'est du d'abord, de la parole qui a créé et qui a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et on va y revenir. On va pouvoir analyser un peu plus loin, parce que c'est tellement beau. Et quand on commence à aller un peu plus loin, eh bien, il nous faut même lire, prenez la référence, vous le lirez à la maison, 1 Pierre 29. Donc, la compréhension juive que nous devons donner au sujet de la Tevila. 1 Pierre 3, 29. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire lorsque nous parlons du mikvé, de la Tevila, de l'immersion? C'est de se hisser à un niveau de sainteté plus élevé et d'élever son niveau de vie et de sa neshama, de son âme. C'est-à-dire que nous sommes au niveau de la poussière où nous restons dans le niveau de la poussière avec l'abdomen et le ventre. Et que si on revenait sur cette lettre Vav qui est en majuscule dans la Torah, on comprendrait que l'abdomen, l'homme charnel, c'est celui qui est vautré dans la poussière, comme le serpent. Et qu'il ne se nourrit que de ce qu'il trouve sur son passage, mais qu'il ne peut atteindre les niveaux d'en haut. Et que, justement, la Tevila, c'est de nous amener à rompre avec ce niveau de l'impureté de la vie, afin de nous nourrir d'en haut, et d'être nourris d'en haut. Et que ce n'est pas simplement une nourriture physique, mais c'est la nourriture qui vient de la main, qui vient de Dieu, c'est sa parole. Et son davar, c'est quoi? Eh bien, c'est la Torah, c'est les paroles qu'il a dites, qu'il a prononcées. Ce n'est pas simplement les paroles de Dieu que l'on dit comme ça, n'importe comment. C'est celles qui ont été écrites, qui ont été fixées, et qui sont des lois, des ordonnances et des commandements pour toutes les générations. Alors, si on veut davantage pousser le sens avec le dialogue de Yeshua avec Nicodème, ce dialogue qui, vous savez, beaucoup le savent, mais en théologie, j'ai eu zéro sur cette question. Parce que je n'ai pas répondu comme le prof voulait. Moi, je lui ai dit, moi, je suis juif, moi, hein, et je ne comprends rien. Il me parlait des nouvelles naissances, et moi, je n'ai rien compris. Et il me disait, l'eau, machin, et moi, j'ai dit, mais je n'ai rien compris. Et j'ai dit, pourquoi Yeshua, il lui parle comme ça? Donc, on en a fait une doctrine, un point, clé, sans comprendre. Et ce qu'il nous faut comprendre, c'est que lorsque Yeshua Mashiach parle à Nicodème, il ne lui parle pas des eaux d'en bas, il ne lui parle pas d'un fleuve, il ne lui parle pas d'un ruisseau, il ne lui parle pas de l'eau dans un mikvé ou dans une baignoire. Il lui parle des eaux d'en haut, de ce qui est là-haut, dans le ciel, et dans lequel personne n'a accès, personne ne peut entrer. Mais il parlait également à Nicodème de ceux qui sont nés dans le monde d'en bas, dans le monde de la mort, dans le monde du chet, dans le monde de celui qui est prisonnier de ce mal, et qu'il ne peut pas se défaire de ce mal. Et qu'à un moment donné, ce mal le conduit inévitablement à la mort. Et lorsque le dialogue s'engage, alors il lui dit, mais il y a un royaume de Dieu, il y a un malchut à Elohim, il y a un niveau qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas de cette conception, qui n'est pas de cet univers, qui n'est pas de cette dimension, qui n'est pas du physique. Mais comment je peux entrer dans ce monde, dans ce royaume? Comment puis-je faire partie, moi, docteur de la loi, de la Torah, puis-je faire partie de ce royaume et de cet univers? Et là, Yeshua, un homme, ne peut entrer dans ce royaume que s'il est né d'eau et... Mais de quelle eau il parle? De quelle eau il parle? De quelle eau il parle? D'un symbole? Non. C'est ce que le prof en théologie, il a voulu me faire croire. Je lui ai dit, l'eau symbole. Je lui ai dit, non, ce n'est pas un symbole. De l'eau d'en haut. Et quand on prend dans le récit de la création de Bereshit, on trouve le mot mikvé. Les eaux qui sont rassemblées, c'est le mikvé. Personne ne peut rentrer dans ce mikvé. Personne ne peut rentrer dans sa présence, dans ce royaume, si quelque chose ne se produit pas pour y faire entrer. Donc il faut sortir du monde d'en bas. Et le seul moyen de sortir, c'est la Teshuvah. La Teshuvah qui nous donne accès à pouvoir être purifié pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais on pourrait aller encore plus loin dans les explications, mais je suis obligé de me réorienter quand même. Et c'est ce qui est intéressant parce que ce dialogue avec Nicodème, c'est que Nicodème comprend très bien qu'il ne peut pas naître physiquement une deuxième fois pour se racheter. Et que pour lui, la question du salut, la question de la rédemption et du rachat, eh bien, est une question qui est complexe, parce qu'il peut comprendre tout ce que la Torah dit, il peut l'enseigner, mais à un moment donné, comment va-t-il naître dans le royaume de Dieu? Et c'est l'expression que Yohanan a utilisée tout à l'heure, que nous avons lue, être né de Dieu. Personne ne peut rentrer dans sa présence et rentrer dans son royaume s'il n'est né d'en haut. S'il ne naît d'en haut et non d'en bas. Ce n'est pas ta naissance première qui te donne un accès à en haut, c'est la naissance d'en haut. Et c'est pourquoi, après le Mikvé, il y a une dimension de conformité de marche et de pratique dans la vie. Et que, quelque part, ce n'est pas simplement être baptisé pour être sauvé, ce que j'ai entendu et auquel je n'ai jamais rien compris, mais être baptisé pour être sauvé, je ne sais pas ce que ça veut dire, concrètement. Je ne sais pas. Et il y en a qui forcent des gens à se faire baptiser alors que la personne n'y comprend rien. Mais c'est plus que ça. Et c'est de rentrer dans une nouvelle dimension de conformité de vie. Alors on va le voir. Quand on parle de ce mikvé, de ces eaux et de ces cieux qui sont rassemblés, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il est parlé des shamaïm. Il n'est pas parlé du ciel au singulier. Il est parlé des différents niveaux qui nous donnent accès dans la présence sainte du royaume de Dieu. Paul les qualifie de trois. Lorsque nous allons dans la pensée d'Israël, c'est sept. Il y a sept niveaux d'accessibilité à Dieu en partant d'en bas. Et de ces niveaux, nous rentrons dans les lois spirituelles de Dieu, de la vie et de la mort. Et ce qui fait que tout change. Donc les lois de la Touma, comme vous avez pu le comprendre maintenant du péché, de la faute, du mal, de l'impureté, et du mikvé n'ont pas de compréhension intellectuelle. C'est ce que disent même les rabbins. La compréhension intellectuelle de ces lois-là nous échappe totalement, parce qu'elles ne sont pas rationnelles, parce qu'elles n'ont pas de dimension d'explication réelle et de compréhension humaine. Et ce qu'il faut accepter parfois avec la Torah, avec la Bible et avec Dieu, c'est que Dieu est au-dessus de notre raison et de notre raisonnement. Et qu'à un moment donné, Dieu va révéler. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie et de la marche avec Dieu, c'est que Dieu nous révèle ce qui est caché. Dieu ne nous révèle pas ce que nous connaissons, il n'approfondit pas notre connaissance, il nous révèle ce qui est caché. Et il le révèle à ceux qui sont des enfants. Dieu a caché les choses aux sages, aux intelligents, mais Dieu les révèle aux enfants. Parce que le cœur d'un enfant est pur. Et lorsque nous commençons à comprendre cette dimension, eh bien, nous réalisons que la raison, c'est qu'elle ne touche pas seulement le monde physique. C'est le monde de la compréhension. Ça, c'est le premier niveau que nous avons tous. Le monde physique, le monde du relationnel, le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous sommes nés, le monde dans lequel nous établissons notre vie, notre existence, dans lequel nous évoluons. Mais il parle d'un monde qui n'est plus celui du monde du physique, il parle du monde de la neshama, il parle du monde de l'âme, il parle de l'âme intérieure de l'homme, il parle de l'identité spirituelle de l'être. Et il n'est plus simplement quelqu'un qui définit une relation physique, une évolution dans un monde physique, un bien-être dans un monde physique, de jouir des biens du monde physique. Non, tout est en relation avec Malchut, avec le royaume de Dieu. Ainsi, il nous faut comprendre que ce n'est pas le corps qui a besoin d'être purifié, mais l'âme. Et là, nous commençons à rentrer dans la profondeur parce que c'est la neshama qui a besoin d'être purifiée. Mais comment puis-je purifier ce qui ne se touche pas par le physique? Et là, la dimension nous pousse parce que nous réalisons que le geste même de le faire physiquement dans un mikvé peut ne pas toucher le niveau profond de notre neshama, mais simplement être dans une tradition, dans une compréhension d'une pratique. Parce que le vrai résultat, c'est la vie que tu mènes après ce passage. Mais si ta vie ne change pas après, l'âme n'a pas été touchée. Et ce sont des choses que l'on va voir ensemble. Pourquoi ? L'impureté, elle est spirituelle et elle peut se définir comme une absence de sainteté. L'absence de sainteté, c'est ce qui donne le sens de la vraie vie, de la vie et de la marche avec Dieu. la nature de Dieu. Alors, ce qui devient, ce que nous appelons en hébreu et dans l'étude juive, que j'ai dû résumer aussi, puis chercher un petit peu, comprendre le sens de la vie et de la vraie vie, c'est de comprendre le sens de la sainteté. La purification, c'est de nous amener au niveau le plus élevé de sainteté. Donc, quelqu'un qui pratique le péché, il devient de plus en plus impur. L'impureté le gagne de plus en plus. Le mal grandit en lui, mais il se répand autour de lui et il commence à amener la mort autour de lui, dans son environnement, dans sa famille, dans ses enfants, et ça peut toucher des générations futures. Et beaucoup, beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Alors on va essayer de comprendre maintenant un peu plus. Qui c'est qui a inventé l'heure ? C'est définir cette absence de sainteté qui est le sens de la vie. Alors c'est ce que nous disons en hébreu, ce qui devient bitoul. La vraie sainteté, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi la sainteté ? Vous savez, je crois que tout le monde s'est planté sur cette réalité-là. La sainteté pour les uns, c'est pas. Et personne ne sait.
C'est la kedusha.
Oui, mais la kedusha, c'est le terme sainteté. Quoi.
Oui,
c'est la séparation. Mais ça ne dit pas ce que c'est. Comment ?
C'est la séparation avec le péché.
Oui, mais c'est pas ça. Qu'est-ce qui donne l'état de sainteté ? Non. Quand on dit bitoul, comprenez bien. Et vous allez voir le rapport avec le mikvé. Ce qui devient bitoul, c'est un état. Bitoul, ça veut dire en hébreu, dans la pensée d'Israël, veut dire un état d'annulation par rapport à Dieu. C'est quand je m'annule moi-même pour faire vivre Dieu en moi. Alors, Paul peut le traduire, Machia en moi. Christ est ma vie, certains m'ont dit ça. Christ est ma vie, la mort est un gain. C'est effectivement le sens. Nous, en hébreu, on dira que le Mashiach en nous, la mort est un gain parce qu'elle ne nous atteint plus. Et donc, le niveau que nous devons saisir, c'est de comprendre qu'il y a des forces spirituelles qui agissent dans la vie comme dans la mort. Et qu'elles peuvent nous rencontrer à tout moment dans notre vie, dans nos chemins, dans nos rencontres, dans nos partages. Et ce n'est pas l'appartenance à une communauté, ce n'est pas l'appartenance à un dogme, ce n'est pas l'appartenance à une forme cultuelle, ce n'est pas des formules magiques prononcées, apprises dans le tout appris, qui vont donner la vie. C'est la vie de conformité qui a une autorité de puissance. Et d'ailleurs, même les démons disaient à Yeshua, à Mashiach, nous savons qui tu es. Ils ne lui disent pas, tu es monsieur un tel, de monsieur un tel, etc. Et disent, tu es le Kadosh, tu es Akadosh, tu es le seul vrai saint. La sainteté de Dieu est en toi. La sainteté de Dieu t'habite, et parce qu'elle t'habite, nous ne pouvons pas rester. Nous sommes obligés de quitter. Autrement, qui avait le pouvoir de chasser ? Et qui a appris à Yeshua à chasser ? Et nous voyons qu'il y a des choses qui sont à comprendre. Alors, lorsque nous commençons à comprendre ça, les forces qui régissent cette impureté sont appelées Sitra Aharam, et qui veut dire simplement l'autre côté. L'autre côté. Ce qui veut dire ce qui est en dehors de Dieu. Donc tout ce qui est en dehors de Dieu nous conduit à être dans ce niveau des eaux d'en bas, de l'impureté, de la nuit, de la mort et des ténèbres. Puisqu'il y a lumière en haut, ténèbres en bas. Et jour et nuit, toujours le haut et le bas distingués, toujours dans deux termes, mais qui montrent les dimensions des hauteurs dans l'espace et l'espace-temps, et qui nous amènent à comprendre que le niveau de la lumière est au-dessus du niveau des ténèbres, mais que nous pouvons vivre dans le niveau des ténèbres sans jamais atteindre la lumière, sans jamais la connaître, sans jamais la saisir. On peut en parler, on peut la définir en physique, spirituellement, on peut faire une étude intellectuelle, on peut, mais sans jamais la vivre, sans jamais être habité par la lumière, mais d'être profondément investi par les ténèbres. Donc Sitra Aharam, l'autre côté, veut dire ce qui est en dehors, et ce qui est en dehors, en hébreu, amène une tristesse profonde de l'âme, parce qu'elle veut dire ce qui nous éloigne, mais ce qui est loin de Dieu, loin de sa présence. C'est-à-dire que sa présence n'est pas là. Ce qui est loin de sa présence, Je peux y aspirer, mais elle n'est pas là. Alors, ce qui éloigne de nous sa présence, c'est la vraie tristesse et c'est la vraie mort. Parce que lorsque même un croyant est déprimé par les problèmes, les machins, et puis les plaintes et les gémissements et tout ça, eh bien, c'est que la présence de Dieu ne l'habite pas, parce qu'autrement, c'est simra, c'est joie. Malgré les douleurs, malgré les fatigues, malgré les combats, malgré tout, c'est que lorsqu'on est annulé soi-même, alors ça veut dire que la personne qui n'arrive pas à atteindre le niveau de sainteté, c'est qu'elle a une trop haute estime d'elle-même, supérieure à celle de Dieu, qui n'est autre que la nature du chatan, qui a voulu s'élever au-dessus de la dimension de Dieu, et qui régit sa vie par lui-même. Et la rébellion n'est rien d'autre que l'esprit d'indépendance, de vouloir être indépendance de tout et de se conduire que par soi-même. Et il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Mais ils n'ont pas compris l'échad et l'unité de l'âme d'Israël, de cette nefesh du peuple juif. Alors nous pouvons avoir une apparence gentille, mais intérieurement être un très très grand orgueilleux et quelqu'un d'écrasant, de dominant. Et ça éloigne la présence de Dieu. Dieu n'habite pas dans ce cadre-là. Ce qui éloigne de nous sa présence, c'est que nous l'appelons concrètement dans la pensée d'Israël, et vous allez voir la profondeur, c'est ce qui crée un lieu vide. C'est un lieu creux, vide mais creux. C'est pas simplement vide, mais creux. Et quand on rentre dans cette compréhension, vous allez comprendre qu'il est relié à quelque chose de très important, parce que c'est cet état qui équivaut au sens de la profanation du nom de Dieu, comme tu l'as lu tout à l'heure, que celui qui prononce le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Tu t'éloignes de l'iniquité, tu te rapproches de la sainteté. Si l'iniquité ne te quitte pas, la sainteté se tient éloignée de toi et Dieu par la même occasion. Et on peut toujours croire que Dieu va nous aimer, pardonner. Ok, mais l'état, c'est l'état au final dans lequel nous sommes. Alors, regardez bien. Yeshua, est-ce qu'il ne dit pas, à un moment donné, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi concrètement ce passage? Ça veut dire que ceux qui disent « Nous avons guéri, nous avons fait plein de choses, nous avons parlé de toi, nous avons témoigné, nous avons. » C'est une nouvelle ville. Et derrière, il dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. » Et qu'est-ce que commettre l'iniquité? C'est tout ce que nous avons vu tout à l'heure. Ce qui éloigne la sainteté, ce qui ne garantit pas dans l'âme un niveau de sainteté dans lequel Dieu habite. Dieu ne peut pas habiter ailleurs que dans sa sainteté. Et ceci nous amène à quelque chose d'encore plus profond, parce qu'il dit « Quiconque prononce » c'est-à-dire même prie, invoque. Et là, nous devons rentrer dans l'enseignement rabbinique qui dit la prière de la légèreté, d'être léger dans sa prière, light, dans un état de non-conscience de son nom et de sa présence nous éloigne de lui. Ce n'est pas de hurler, de croire qu'on va au travers de termes forcés comme certains vous forcent des fois en vous imposant les mains, en vous secouant comme un citron et puis de vous faire tomber à tout prix. Mais il y en a, c'est comme ça, et ils croient qu'ils ont la puissance de Dieu parce que moi que des mêles tombent à ton côté et des mêles à l'autre côté, toi t'es pas atteint. Moi j'ai énervé Colin Urquhart, pour ceux qui connaissent et au niveau charismatique. J'ai énervé que l'Innerquart parce qu'il voulait me faire tomber à tout prix. Bon. J'avais envie de lui presque lui mettre un coup de boule, moi. Mais pourquoi? Ben parce que il forçait. Et puis quand il voit que tu joues pas le jeu, il se tire. Moi j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit qu'il veut bénir et puis il se tire. Donc c'était que le but de faire tomber. Mais il disait rien dans sa prière. Ses mots étaient light. Et beaucoup de gens, quand ils prient, même pour quelqu'un, leurs mots sont light. Ils pensent qu'il faut manifester d'abord une espèce d'émotion, de puissance, mais qui est light, et la vie est light, parce que la profondeur des mots n'est pas. Parce que dans la profondeur de l'âme, l'expression de l'amour du divin n'est pas. Et lorsque on va encore plus loin, il nous est dit que celui-même qui invoque son nom et s'éloigne de l'iniquité. Et c'est pourquoi les disciples, à un moment donné, lui ont même dit, mais alors comment devons-nous prier ? Avinu Shebashamayim, qui est un programme. Et il dit, voilà comment tu dois prier. J'ai fait une étude là-dessus dans le TMPI des Avinu. Et nous devons savoir ce que ça veut dire notre Père et pas mon Père. Notre. Et Yeshua a dit notre Père, qui est dans les cieux. Et il prie bien, et il dit bien qu'il faut prier, non pas dans la force d'en bas, mais dans la puissance d'en haut. Qu'il s'éloigne de l'iniquité, c'est, on va le lire dans Matthieu 7, vous voyez, je commence à accélérer le sirtaki. Matthieu 7, et les versets, à partir du verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, il est clair, Machia, sera semblable à un homme insensé, c'est-à-dire insensé, un aval, quelqu'un qui a perdu le sens de la compréhension de sa vie et de son but dans la vie. Celui qui a perdu le sens du but de sa vie devient insensé parce qu'il n'a plus d'orientation de vie. Et qui a bâti sa maison sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus et les vents soufflés ayant battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et après que Yeshua eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il a enseigné comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il n'enseignait pas comme un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui a l'apparence de la pratique, mais dont le cœur est éloigné de la pratique, dont l'intention de bénir et de faire le bien est éloigné. Et c'est ça la gravité. C'est que beaucoup de croyants aujourd'hui pensent qu'on peut adopter n'importe quelle parole, n'importe quel comportement, n'importe quelle attitude les uns envers les autres, prier n'importe comment vis-à-vis de quelqu'un, de s'adresser à lui de n'importe quelle manière. Eh bien, Yeshua nous reprend. Et il nous dit bien qu'il faut une pratique, il faut une halakha. Il ne faut pas simplement une confession de foi et croire en des choses et mettre simplement l'appui. Je m'appuie sur tes promesses, je crois en tes promesses, je crois en la réalisation de tes promesses et je crois en ceci et cela. D'accord, tu peux croire, c'est bien. Mais croire sans avoir une pratique n'est plus croire. Parce qu'elle donne une dichotomie de cohérence. Et nous devons justement aller plus loin. De Timothée. 19, wow, oui. De Timothée, il faut que je voie, parce que des fois, on travaille. On va lire à partir du verset 8. Souviens-toi de Yeshua Mashiach. Ben, vous devez le connaître. Si vous avez un esprit de révélation... De Timothée 2, et à partir du verset 19. 18. Ouais, non, c'est normalement 19, mais... Ouais, bon, on va lire quand même, parce que les temps passent. À partir du verset 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, qui renverse la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il n'y a pas que Yeshua Mashiach qui l'a dit. Paul va encore plus loin. Et il dit bien que Mashiach connaît ceux qui lui appartiennent. Certains voudraient décider à la place de Dieu qui lui appartient. Non ? C'est pas vrai ? En faisant le ventilateur. Ben c'est ces gens-là qui dégageront. Qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Et il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Ce que veut dire tout cela, c'est que c'est nous qui créons ce vide dans lequel Dieu ne peut pas habiter. Ce creux. Et ce vide qui se crée, c'est que la Shérina s'est retirée. Et c'est comme ça qu'on doit le comprendre aussi dans l'exil d'Israël. À un moment donné, par le fait qu'ils sont entrés dans l'idolâtrie, la Shérina s'est retirée de son peuple. Et elle s'est mise en exil. Et le fait qu'elle se soit mise en exil, le terme hébreu qui est utilisé, Dieu s'est mis à errer parce qu'il n'avait plus son makom, son lieu, le temple. Parce que le temple étant détruit. Et c'est pourquoi plus tard, au travers de Yeshua Mashiach, alors que le temple était présent et que plus tard il sera détruit, il dit que le temple ne sera plus seulement qu'un temple de pierre, mais un temple dans le cœur. Et Paul le dit bien, nous sommes devenus le temple de sa présence. Le temple de son esprit, c'est quoi? Pas d'une force, pas d'une énergie, pas d'une puissance, pas de quelque chose que nous ne comprenons pas, que nous ne pouvons pas saisir avec notre intelligence même, parfois, ou nos émotions. Mais il dit, c'est que là se réalise la parole qui avait été donnée dans la construction du Mishkan dans Techouma. Lorsqu'il est dit, je résiderai, j'habiterai, je serai le Shakan, c'est-à-dire j'habiterai non pas dans l'extérieur, mais dans l'intérieur de chacun d'eux. Chaque enfant d'Israël aura dans le Mashiach cette étincelle de vie. Mais également de tous ceux qui se rapprocheront de lui, mais en marchant dans ses voies. Et donc, si nous voulons comprendre cet exil, c'est un lieu où la présence, sa présence sainte, sa présence glorieuse n'habite pas. Alors ce que l'on dit en hébreu, quand la présence de Dieu n'habite pas, c'est Iloul. Et Iloul Hashem. Iloul Hashem veut dire que la présence de Dieu est absente. Dieu est absent. Il est en exil. Il erre. Ce qui fait que toi, tu as perdu le sens de ton habitation, le sens de ta rédemption, la compréhension de ta vie avec Dieu. Alors tu deviens ce qu'on appelle, et ce n'est pas du tout péjoratif, hein, un halal, pas la viande halal. Tu ne deviens pas un steak haché halal ou une boulante de viande halal. Mais c'est halal. Khiloul,
ça veut dire vide.
Totalement vide.
Non, mais je dis khiloul, pas halal, pas
halal. Non, mais après, 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 halal nous conduit justement à comprendre que la profondeur du creux, de ce vide, mais un vide, c'est une absence, mais creux. Qu'est-ce que ça veut dire creux? Qu'est-ce que ça veut dire creux? Et creux veut dire quelque chose qui accentue le vide. Et donc, ce qui fait après habiter la présence de Dieu, c'est la sainteté de Dieu. C'est quand la sainteté de Dieu est présente. Et Bitoul signifie que Dieu remplit tous les espaces. Soyez remplis, non enivrés de vin, de boissons enivrantes, qui font perdre le sens, qui donnent des fausses joies, des fausses réjouissances, qui donnent des états seconds. Mais soyez remplis de quoi? De son souffle. Et il ne laissera aucun vide. Et ça, c'est la vraie théologie de Paul. C'est ce que Paul, en tant que rabbin, a voulu développer et amener à la compréhension, non pas de distinguer loi et grâce, mais Mashiach en nous, l'espérance de la gloire. Car que veut dire Mashiach en moi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Simplement dans des paroles, des proclamations, des exclamations, et puis ta vie à côté démontre tout l'inverse et tout le contraire. Aucune parole d'amour, aucun geste, aucune pratique, aucun concret derrière. Tu peux le dire, mais t'es pas crédible. T'es pas crédible. Et il faut devenir crédible. Et lorsqu'on devient crédible, eh bien c'est lorsque le Mashiach nous habite. Donc, Lorsqu'on prend Bitoul dans un autre ordre des lettres, il forme le mot Tevila. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le mikvé dans la Tevila, l'immersion, parce que Tevila veut dire littéralement immergé, complètement immergé. Immersion totale. Ce qui donne le vrai sens de l'annulation de soi ou le renoncement à soi-même. Et ce qui veut dire que quand tu passes dans le mikvé et que tu, toi-même, parce que on a pris l'habitude que ce soit une personne qui vous fasse aller au fond de l'eau. Des fois, il faut aider les personnes. Moi, je vous garantis, là, ceux qui vont passer TV, là, vous allez rester jusqu'à plus respirer. Hein. Et trois fois. Et, comment tu vas comprendre le sens de la vie et de la mort? Le sens de la résurrection, ben, c'est quand la vie ne t'habite plus, puis que de ce coup, tu reviens. C'est l'annulation de soi, le renoncement à soi, ce qui veut dire perdre son existence, traduit dans le langage chrétien, mourir à soi-même. Et pourquoi on doit passer par le mikvé? Pour devenir un réceptacle de sainteté. Parce que ce n'est pas le corps qui se lave, c'est la neshama. C'est la pureté spirituelle. C'est quelque chose qui nous fait aller plus loin. Et lorsque nous commençons à parler comme ça, le réceptacle de la sainteté, de sa sainteté, c'est de sortir de soi. C'est d'amener sa neshama dans les eaux d'en haut. C'est naître d'eau et d'esprit. C'est de dire, voilà, maintenant, ce n'est pas simplement un rituel physique que j'accomplis, mais j'accomplis quelque chose qui me donne la régénération spirituelle, la vie d'en haut. Ce qui donne encore un sens plus profond, c'est de saisir le fait qu'on est purifié, non pas quand on est immergé, mais quand on en sort. Ce qui veut dire que le sens de ces paroles de Paul, je vais conclure là-dessus. Vous comprenez que j'aurais pu développer beaucoup plus certaines choses, mais vu l'heure, je voudrais arriver quand même à quelque chose. Donc, on va prendre les paroles, oui, pardon, de Paul dans un premier temps. Hein. Romains 6, à partir du verset 3. Il faut bien dire ce qu'il y a avant. Hein. Ignorez-vous que nous tous qui avons été immergés, plongés en Yeshua Mashiach, c'est en sa mort que nous avons été immergés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par l'immersion en sa mort, afin que comme le Messie est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 8, à partir du verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous voyez bien, les terminologies, elles sont claires. Mais selon son esprit de sainteté. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et il parle bien à des croyants quand même, hein, qui étaient un petit peu bizarroïdes, mais bon. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Messie, du Mashiach, si quelqu'un n'a pas la pensée, la vie et la pratique du Mashiach, il ne lui appartient pas. Tu peux parler au nom d'une religion, te définir au nom de la foi, de ta croyance, de tes convictions, tu ne lui appartiens pas. Et si Mashiach est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais le souffle de vie, à cause de la justice, et si l'Esprit Saint, ou l'Esprit, ou le souffle de vie, de celui qui a ressuscité Yeshua d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Mashiach d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, le niveau le plus bas, le niveau du physique. Et si nous avons connu Mashiach selon la chair, Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Messie, il est une nouvelle création. Et là, les choses anciennes. Là, les choses anciennes sont finies, sont oubliées, ôtées de la mémoire de l'existence devant la face de Dieu. Car qui peut ôter la mémoire des souvenirs? Personne. Ni un psycho. Il n'y a que l'œuvre de la guérison spirituelle de Dieu qui peut faire ça. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Messie et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 9. « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Et c'est en lui, car ça suit obligatoirement, comme on l'a lu tout à l'heure dans la paracha. » Et c'est en lui vous avez et c'est en lui que vous avez été Brit Mila circoncis d'une circoncision, et on précise bien que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Mashiach. Et là la question se pose, est-ce que tu es dans la Brit Mila du Messie? Pas seulement la circoncision du cœur, là il y a une grande différence dans les trois niveaux de circoncision. Est-ce que tu as la circoncision du Mashiach? La séparation de tout l'environnement du mal. La circoncision du Mashiach qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par la Tevila, l'immersion. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par l'Emouna, une pratique halachic, en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé, etc. Donc, quel est le but? À un moment donné, lorsque on commence à approfondir et rentrer dans cette compréhension, c'est de comprendre le temps de l'Omer dans lequel nous sommes. Ce cheminement vers Shavuot pour faire habiter la loi du Messie en nous, pour que la Torah du Messie soit écrite en nous. Et c'est de nous amener à vivre une nouvelle dimension, qui ne soit plus qu'une dimension religieuse, émotionnelle, basée sur des concepts, où on défend des vérités conceptuelles plus que des vérités de vie. Et qui nous amène à aller dans l'approfondissement de la création d'un homme nouveau. Dieu est en train de faire cette œuvre au travers de ce que nous voyons entre ce qui était autrefois pendant près de 2000 ans, enfin mis à part quelques guerres qui sont intervenues avec l'islam, mais pendant un certain nombre de siècles, juifs et arabes ont été ignorés. Et nous voyons aujourd'hui un temps nouveau. Et c'est la création d'un homme nouveau qui est en train de sortir. D'un homme nouveau qui sent la postérité de la circoncision d'Abraham. Qui nous amène dans la compréhension que ceux qui sont circoncis du Mashiach reviendront aux racines juives d'Israël. Mais à la racine d'Israël, pas la racine seulement d'un espèce de judaïsme où on flirte superficiellement, la racine d'Israël du Messie, et qui conduit à cette compréhension de Shavuot, l'homme nouveau qu'il crée en lui-même. L'homme nouveau, ceux qui étaient loin, qui se sont rapprochés, des deux il n'en fait qu'un, Éphésiens 4. Et nous pourrions pousser beaucoup plus loin, parce qu'il y a tellement de choses à relever. Parce que tout le mikvé, la résurrection, sortir de l'eau, d'avoir purifié l'âme, c'est d'être un homme nouveau. Pas un vieil homme qui continue à vieillir, qui continue gentiment sa vieillesse dans le même mal. Et là, le processus d'accélération de la vieillesse qui qui conduira à la mort. Et j'ai horreur de l'hypocrisie et de finalement d'une non-pratique où on pense qu'on doit justifier nos blessures. Ah, je suis un blessé, alors je peux prendre le recul. Ah, je suis un blessé, mais je prêche la puissance de Dieu. Incohérence. Tu es dans l'état de mort spirituelle, mais tu prétends donner la vie et de délivrer les autres, alors que toi-même t'es lié par ta blessure. La blessure qui cause ta mort. La blessure, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit intellectuelle, peu importe, elle te conduira à nulle part. Elle te conduira dans quelque chose qui n'aura jamais de fin, mais qui, malheureusement, emplira davantage. Et beaucoup de gens pensent que leurs prières vont être efficaces alors qu'ils sont dans la haine de leurs frères. Si tu n'aimes pas ton frère, un commandement nouveau, c'est ça. Mais comment ? Moi, je ne comprends pas ces fonctionnements aujourd'hui des gens qui rejettent les gens. Qu'on n'ait pas des atomes crochus qui en aient, qui peut-être viennent dans des mauvaises intentions. Dieu les révélera, Dieu les dénoncera, mais surtout, la haine ne doit pas habiter le cœur. Et que derrière, si nous voulons guérir vraiment dans le corps du Messie, dans la Kéhila, il nous faut rentrer dans l'abdication de soi, dans le renoncement, d'entrer dans cette dimension que Dieu veut créer, cet homme nouveau, qui n'est pas une nouvelle forme religieuse, dans une forme religieuse, qui se distingue d'un aspect religieux. Nous voulons simplement, maintenant, aujourd'hui, entrer dans quelque chose qui nous donne la vie. Amen. Où on vit Dieu, et on ne dit pas seulement « j'aime le Seigneur » parce que, et puis j'oublie ce que j'ai dit. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est le servir. Et de l'aimer à la maison, de l'aimer au travers de sa femme, de ses enfants, de l'aimer au travers des uns, des autres, de ceux qui sont autour de nous, et de guérir de toutes les blessures qui nous amènent à cette mort, à cette impureté. Car on peut toujours dire, oui, j'ai fait, j'ai donné. Si tu essaies de vouloir mériter devant Dieu la moindre chose, de vouloir mériter en justifiant quoi que ce soit, Dieu te recalera. Vous pouvez me croire, ne pas me croire, accepter, ne pas accepter, vous êtes libre. Moi, il n'y a pas de problème. Mais les faits seront là. Le temps le montrera. L'état spirituel de la personne sera visible. Et elle révélera son choix, tôt ou tard, de séparation. Et de quelque chose où tout ce qui était engagé est désengagé. C'est ça l'état spirituel. C'est ça l'état. Uniquement. Et donc, revenir à cette dimension de l'homme nouveau. Quand tu deviens un homme nouveau, tu peux être frappé de la metsora, de la lèpre spirituelle, parce que le mal ne t'a pas totalement quitté. Et le corps du Messie, le corps que nous formons ensemble, fait que nous pouvons être frappés de lèpre et d'une lèpre spirituelle, parce que nous avons amené, parfois, et je dirais que c'est l'une des causes les plus terribles des divisions aujourd'hui, même dans les couples, même dans les relations familiales, c'est le lashon hara, la médisance, c'est la mauvaise langue, la langue qui parle mal, la langue qui parle mal et qui donne le mal, qui transmet le mal. Et ce que Dieu veut restaurer en nous, c'est un langage du ciel. Un langage de la bénédiction qui guérit la blessure, qui est un baume, mais qui a aussi la puissance du ciel. Parce que sur une parole, et regardez, et je vous laisse avec ça, il y a à un moment donné plusieurs épisodes dans la vie du Mashiach qui sont interpellants. Mais un des épisodes qui m'a beaucoup frappé, c'est Corneille, le non-juif. Et il vient vers Mashiach et Mashiach lui dit, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Pas parce que tu es un non-juif uniquement, mais parce que tu ne peux pas suivre tout le rituel. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? dit un mot, une parole, envoie une parole, et mon serviteur sera. Yeshua n'a même rien dit, il y va, c'est accompli. Et il y a ce psaume qui dit, il envoya d'avar, pas la parole humaine, pas l'onde qui vient d'en haut, qui crée une ondulation. La puissance de Dieu, c'est une onde impossible à freiner, qui fracasse tous les niveaux de l'espace-temps, et qui s'incarne, et qui s'impose dans toutes les dimensions du temps, et qui à ce moment-là établit le règne de Dieu. Et quand il établit, la mort, le mal, la douleur, la maladie, elle ne peut pas rester devant sa puissance. D'avoir des paroles qui deviennent des paroles de puissance, c'est annuler la shonara. C'est d'annuler ces comportements bébêtes que l'on trouve parfois dans beaucoup de milieux où on justifie un nouveau niveau de spiritualité en priant contre l'autre, en rejetant l'autre, en devenant suspicieux, en devenant quelqu'un qui a un regard négatif et qui commence à se prendre pour je ne sais pas qui. Ça, c'est la destruction assurée. Mais lorsque nous créons la maison de Dieu, le Mishkan, à l'intérieur de soi, dans nos familles, dans nos relations, dans le peuple, autour de nous, la Shrina habite. La Shrina habite. Et quand Shrina habite, sa gloire est présente. Sa gloire. Alors, je ne sais pas où c'est qu'on ira. Il y a tellement des points qui méritera d'être relevé. Mais pour revêtir l'homme nouveau, si on n'avait pas les travaux, on aurait fait les chemins d'étude. Qu'est-ce qui habille l'âme de l'homme nouveau? Et là, on entre dans une dimension totalement nouvelle. Ce n'est pas simplement ce que j'ai parfois aussi enseigné. Bien sûr que ça va se retrouver, mais les vêtements de l'âme, comment la sainteté de Dieu va habiller l'âme, la Neshama. Comment est-ce qu'on va être habillé dans le futur? Ou alors est-ce qu'on va garder la nudité et que la nudité ne rentre pas dans le monde d'en haut? La nudité est un état spirituel. L'habillement est un vêtement. C'est ce qui ouvre et ferme l'accès. Donc, peut-être la semaine prochaine, je vais approfondir ça. Mais pensez à une chose, et je le dis à la Kéhila, même à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois, ceux qui sont de passage, ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de ce vocabulaire, de ce langage, de cette approche de la pensée du Messie, de la pensée juive d'Israël, de celui qui est né dans cette pensée, de son héritage. C'est de comprendre qu'il faut une cohérence, pas simplement une conviction de prononciation de foi, de confession de foi ou d'adhésion, mais une pratique, une vie. Et que derrière, Dieu veut élever un niveau de sainteté parce que le niveau de l'impureté autour de nous est plus élevé que la sainteté dans les croyants. Si vous voulez une comparaison, la sainteté des croyants est très basse. La pratique de vie des croyants, l'amour et d'autres choses dans le relationnel est très bas. Par contre, le niveau d'impureté autour de nous est en nette augmentation. Et vous pouvez lire dans l'histoire et analyser l'histoire, ça n'a pas toujours été le cas. Ce qui veut dire que le mal a augmenté et qu'il commence à dominer et qu'il commence à régir la pensée des hommes et qu'il est en train de détruire. Et nous l'avons vu au travers des familles, au travers des enfants, nous le voyons à travers des couples, nous le voyons à travers des kéhilotes, les pasteurs qui de plus en plus s'éloignent, d'autres tombent dedans, et les autres sont dans l'argent, et les autres sont dans la tricherie. Tout le malin a augmenté progressivement. Le fruit, le résultat. quand la sainteté n'habite pas, l'impureté et le mal se répandent. Et après, c'est la détresse sociale et beaucoup de choses. Donc il est clair, il ne doit plus y avoir d'impureté. Il doit être clair. Plus de choses qui font gagner le terrain du mal, mais augmenter la vie. On est des femmes qui donnent naissance à la vie, à des enfants. On veut une génération spirituelle d'enfants qui naissent bien dans le Messie.